Il y a quelque temps en arrière déjà, nous avions eu l'occasion d'étudier ensemble différentes caractéristiques du sermon inaugural de Jésus, ce sermon que Jésus va donner sur la montagne devant des milliers de gens et qui va commencer véritablement son ministère. J'aimerais aujourd'hui prendre quelques éléments encore de ce sermon sur la montagne, comme on l'appelle, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. C'est un texte d'une grande richesse et j'aimerais ce matin encore en extraire pour nous un encouragement à nous engager envers le Seigneur avec tout ce que nous avons. Jésus se tient devant des milliers de gens. Ils sont là, répartis sur la colline, et Jésus va prêcher. On attend de savoir qui est ce nouveau prédicateur. On se demande de quel parti politique il est. Et à peine Jésus a ouvert la bouche, on a compris qu'on a affaire à quelqu'un de différent de ce que l'on attendait. Les premières paroles qu'il va donner ne vont déjà pas rentrer dans ce qu'ils sont habitués d'entendre. Ils comprennent que cet homme est véritablement un révolutionnaire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dans la mentalité des gens de ce temps-là, les pauvres en esprit, ce ne sont pas eux qui sont heureux. Dans la mentalité des gens de ce temps-là, les heureux, ce sont les riches, ce sont les bien placés, ce sont les grands, ce ne sont pas les pauvres en esprit. Et c'est pour eux que Jésus est venu, les pauvres en esprit. Dans le commentaire qu'elle écrit, Ellen White, dans son livre « Heureux ceux qui » dit ceci. Ces paroles avaient frappé à la racine même de leur pensée et de leur conception. Et obéir à ces enseignements demandait de leur part un changement dans les habitudes de pensée et leurs actions. Cela impliquait un renversement de la structure établie par les rabbins depuis des générations. Ainsi, bien que le cœur du peuple s'ouvrait à ces paroles, peu se trouvaient prêts à les recevoir comme guide de leur vie. Ce que Jésus présente ici est véritablement révolutionnaire. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas encore entendu. C'est quelque chose auquel ils ne s'attendent pas. Et pourtant, tout dans ce que dit Jésus leur rappelle ce qu'ils connaissent déjà. Jésus se présente sur cette montagne comme en fait le nouveau Moïse. Celui qui leur dit « On vous a dit, mais moi je vous dis ». Autrement dit, comme celui qui apporte la loi. Il transmet la loi comme Moïse. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent. Il ne transmet pas seulement la loi, il ne transmet pas la parole de Dieu, il est la parole de Dieu. Les Juifs de ce temps-là attendaient le Messie comme étant le nouveau Moïse. Et tout dans ce que Jésus fait rappelle Moïse. Son discours commence par ses béatitudes, ses bénédictions, si vous voulez. Et tout le monde se souvient que Moïse, à la fin du livre du Deutéronome, au chapitre 28, va donner son testament avec 7 bénédictions et juste après avec 7 malédictions qui correspondent. Vous pouvez relire le livre du Deutéronome au chapitre 28 et vous allez voir que ces bénédictions se répartissent en 7 chapitres et que les malédictions qui correspondent sont aussi réparties en 7 chapitres. Jésus commence son discours avec 8 bénédictions. Heureux ceux qui. Et les malédictions vont venir. Nous les trouvons dans le même évangile de Matthieu, chapitre 23, où à nouveau, Jésus va s'adresser aux gens de son temps en disant « Malheur, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » Curieusement, les 8 malédictions de Matthieu 23 correspondent aux 8 bénédictions de Matthieu chapitre 5. On a généralement compris les béatitudes comme une liste de bénédictions adressées à des gens différents. Les pauvres en esprit, les affligés, les doux, ceux qui ont faim et soif de justice, etc. J'aimerais vous suggérer ce matin que ce que Jésus présente ici n'est pas une liste disparate de bénédictions sur les uns ou sur les autres, mais en réalité un programme, une marche avec Dieu. Ce qui se produit dans notre vie quand on accepte d'être au départ ces pauvres en esprit qui ont besoin d'un sauveur. Non pas seulement une liste, mais une progression, différentes étapes dans notre marche avec Dieu. Je vous propose de réviser rapidement ces étapes de notre marche avec Dieu. La première béatitude dans Matthieu chapitre 5 au verset 3 dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est une première étape par laquelle on reconnaît notre pauvreté spirituelle. Il n'est pas ici question des pauvres malades mentaux, de ceux dont l'esprit n'est pas clair par la maladie. Il est question de ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, leur pauvreté morale, ceux qui reconnaissent leur incapacité, ceux qui se sentent démunis et qui reconnaissent avec humilité qu'ils ne peuvent rien par eux-mêmes. Heureux les pauvres en esprit. Finalement, ceux-là, ces pauvres en esprit, ce sont ceux qui viennent avec cet esprit de confession et qui reconnaissent ce qu'ils sont, c'est-à-dire rien ou pas grand-chose. Ce sont ceux qui se retrouvent dans cette parole de Jésus, un peu plus loin dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 2 et au verset 17. Jésus dit ceci, Évangile selon Marc, chapitre 2, verset 17. Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Ce sont ceux-là que Jésus est venu servir, ce sont ceux-là que Jésus est venu appeler, ceux qui se reconnaissent pauvres, ceux qui confessent leur pauvreté, leur incapacité, qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Si vous tournez dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 23, où se trouvent les malédictions, la première que Jésus prononce au verset 13 correspond à ce que nous venons de voir dans les bénédictions. Matthieu chapitre 23, verset 13. Je vous invite ce matin à garder votre doigt d'un côté dans Matthieu chapitre 5 et de l'autre côté dans Matthieu chapitre 23. Nous allons passer de l'un à l'autre pour comparer ces passages. Au verset 13, il est dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Voilà, il est question là aussi du royaume des cieux. Et Jésus leur reproche de fermer le royaume des cieux à ceux qui veulent y entrer. Ils se considèrent comme les gardiens de ces gens, ayant pouvoir sur eux pour les garder dans cette pauvreté et les empêcher d'aller vers celui qui peut leur donner ce dont ils ont besoin. Heureux les pauvres en esprit, un esprit de confession, de reconnaissance de notre besoin. La deuxième béatitude dit ceci dans Matthieu 5, verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » C'est l'état d'esprit qui correspond à la suite de cette démarche avec Dieu. Quand on réalise notre besoin, on en est profondément affligé. On souffre d'être dans cet état. On est affligé par notre condition de pauvreté. Certains ne s'en lamentent pas. Ce sont les propres suffisants qui n'ont besoin de rien et de personne. C'est Laodicée dans l'Apocalypse qui n'a besoin de rien. Tout va bien. Mais heureux, dit Jésus, sont ceux qui sont affligés par leur état, par leur pauvreté. Heureux sont ceux qui se considèrent sans ressources et qui appellent au secours. Les affligés, ce sont ceux qui, démunis, appellent Dieu au secours pour qu'il vienne les consoler, les soutenir, les reconstruire. La parole de Jésus dans cette parabole que vous connaissez, le publicain et le pharisien s'adressent justement à ce genre de gens. Regardez dans l'évangile de Luc au chapitre 18, par exemple, où Jésus raconte cette parabole et il met dans la bouche du publicain ce que ces affligés pourraient dire. Évangile selon Luc, chapitre 18, au verset 13, il est écrit ceci. Évangile selon Luc, chapitre 18, le verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Voilà la situation de ceux qui sont affligés, affligés par leur état, par leur condition, par leur pauvreté. Ils en souffrent et ils appellent au secours. Maintenant, si vous regardez de nouveau dans Matthieu au chapitre 23, la deuxième malédiction qui est prononcée, au verset 14, il est dit ceci. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela vous serez jugés plus sévèrement. » Les voilà les affligés, les veuves et tous ceux qui sont derrière ces veuves et qui représentent ceux qui sont dans la misère, dans la souffrance, dans la difficulté. Ils sont en fait les victimes de ces gens-là et c'est la raison pour laquelle Jésus le leur reproche. Ils n'apportent pas la consolation, ils aggravent la situation des affligés. La troisième béatitude dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5 dit ceci, pour employer un langage plus courant, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Cette phrase déjà ne correspond pas à la réalité de beaucoup de gens à cette époque-là, ni aujourd'hui. Parce que les doux ne sont pas ceux qui gagnent. Ceux qui veulent conquérir la terre doivent être violents, agressifs, directifs. Ce sont ceux qui dominent les autres, autoritaires. Et Jésus dit non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ceux qui hériteront de la terre, ce sont les doux. C'est à eux qu'elle appartiendra. Par ce moyen, Jésus montre que son royaume n'a aucune mesure avec notre royaume. C'est un autre royaume. Il n'a rien à voir. Il a d'autres valeurs. Il a d'autres bases. Il a même un autre roi. Alors, quand on reconnaît notre besoin, première béatitude. Quand on souffre de ce besoin et qu'on appelle au secours, deuxième béatitude. À ce moment-là, on vient tel qu'on est à Christ et on lui demande de nous donner sa grâce. Et on la reçoit parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas d'autre choix que de recevoir la grâce de Dieu. On se rend compte à ce moment-là de la dette immense que l'on a envers lui et de l'amour immense qu'il a envers nous de nous remettre cette dette, si l'on peut parler ainsi. Jésus a raconté une parabole qui illustre ce fait-là. Un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, encore au chapitre 18, vous vous souvenez, Jésus raconte cette parabole de l'ouvrier infidèle, du serviteur trompeur. Et un jour, le maître se décide de faire les comptes et il se rend compte que ce serviteur-là a une dette gigantesque. Alors il l'appelle. Et ce serviteur va pleurer pour que sa dette lui soit remise. Le maître, pris de pitié, va lui remettre son énorme dette. Et puis en sortant, il va rencontrer quelqu'un qui lui doit 3 fois rien. Et il va le faire mettre en prison pour qu'il lui paye ce qu'il lui doit. Le maître entend parler de cela et lui parle. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, au verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Voilà, c'est l'esprit de celui qui est devenu doux, qui a compris l'immensité de la grâce de Dieu lorsqu'elle lui est offerte et qui est prêt aussi à la présenter aux autres. C'est celui qui reconnaît l'immensité de l'amour de Dieu et qui, frappé par cela, l'offre aussi aux autres. Celui qui devient doux et humble de cœur, comme celui dont il veut suivre maintenant l'exemple. Mais si vous tournez maintenant quelques pages pour retourner dans Matthieu chapitre 23, au verset 15 se trouve la troisième malédiction. Et Jésus dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez les mers et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. » Ce n'est pas le ministère de la douceur dont Jésus parle ici, c'est du prosélytisme, c'est-à-dire constituer un club de gens qui travaillent pour eux. Ce n'est pas de l'évangélisation, parce que l'évangélisation consiste à apporter la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin pour qu'ils deviennent eux aussi des doux et humbles de cœur. Jésus en veut après ces gens qui n'apportent pas sa douceur à lui, mais ils apportent leurs lois, leurs traditions, leurs exigences, pour en faire, comme il le dit, des fils de la géhenne deux fois pire que vous. Ils n'ont pas apporté l'évangile de la douceur et de la paix. Dans Matthieu chapitre 5, la quatrième béatitude dit ceci, au verset 6. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » C'est la quatrième étape dans notre marche avec le Christ. On reconnaît notre pauvreté, on reconnaît notre besoin. Et puis, on est affecté par ce besoin, on souffre de notre limite et on reçoit la grâce de Dieu qui commence à nous transformer. Celui qui nous a reçus est d'un amour immense. Nous sommes invités à l'offrir aux autres. Mais on se rend compte que la justice de Jésus n'est pas encore enracinée parfaitement en nous. C'est à ce moment-là qu'on a soif et faim de la justice de Christ, qu'elle soit en nous, qu'elle soit aussi autour de nous. Et pour faire comprendre à quel point c'est un besoin profond et intense, non pas un désir superficiel, Jésus va parler de ce qui est le plus fort, la faim, la soif. C'est un désir réel de tout notre être, ce n'est pas une démarche intellectuel ou même stratégique pour être un bon chrétien. C'est une recherche profonde de cette justice qui est seule en Jésus. On voudrait être ce réceptacle de cette justice. On voudrait être, comme dit les Écritures, le temple du Saint-Esprit et qu'il vienne en nous et qu'il y fasse ce travail qui est encore à accomplir. Non pas seulement nous considérer comme justes, mais que nous puissions devenir les justes disciples de Jésus. Il y a cette soif de la justice, et la promesse qui va avec. Ils seront rassasiés. Mais lorsque vous regardez maintenant dans Matthieu 23, les malédictions, vous retrouvez une malédiction contre ceux qui ne veulent pas la justice de Jésus. Verset 16, « Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, « Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé, insensé et aveugle. » Ils sont là en train de pinailler sur les détails de leur serment. Et Jésus leur dit, « Mais de quoi vous parlez, insensé et aveugle ? Vous êtes là en train de faire des magouilles, de faire des mensonges, de faire de la politique, de faire toutes sortes d'affaires pour vous justifier vous-même de ce que vous avez fait. Et la justice de Dieu là-dedans, c'est la vôtre que vous recherchez. Cette faim et cette soif de l'action de Jésus, elle n'est pas là. Pourtant, dans l'évangile de Jean, Jésus dit ce qu'il en est de ceux qui aiment sa justice. Regardez dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Vous savez qu'il y a dans ce chapitre une promesse extrêmement importante qui est répétée de plusieurs manières. La promesse de l'Esprit de Dieu qui est envoyé à ses disciples. Et il est dit au verset 23, évangile de Jean chapitre 14 verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Autrement dit, par l'action du Saint-Esprit, nous pouvons être le réceptacle de la présence de Jésus et de Dieu le Père. Les versets qui suivent nous disent que quand Jésus demeure en nous, nous portons beaucoup de fruits. Non seulement nous sommes considérés comme justes, mais nous devenons justes par sa grâce. C'est exprimé dans ce passage tiré du livre « Jésus-Christ » par Ellen White, où elle dit ceci, à la page 25. « Christ a été traité selon nos mérites, afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Il a été condamné pour nos péchés auxquels il n'avait pas participé, afin que nous puissions être justifiés par sa justice à laquelle nous n'avions pas participé. Il a souffert la mort qui était la nôtre, afin que nous puissions recevoir la vie qui est la sienne. » Voilà de quoi ces gens ont faim et soif. C'est de cela, de tout ce qu'ils n'ont pas et que Jésus donne. Malheur à ceux qui ne veulent pas cette justice-là et qui cherchent la leur propre justice. Dans Matthieu chapitre 5, la cinquième béatitude de Jésus dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » C'est là la cinquième étape dans notre marche avec Jésus. Parce que lorsque nous recevons cette justice de Jésus, lorsque notre faim, notre soif est enfin satisfaite, alors nous sommes libérés de ce que nous appelons dans notre langage le salut par les œuvres, c'est-à-dire la nécessité de construire notre justice à nous. Nous en sommes libérés. Ce n'est plus nécessaire de faire pour soi-même. À partir de ce moment-là, nous faisons pour les autres. Ça s'appelle le service. Les miséricordieux, ce sont ceux qui commencent à faire non pas pour eux, mais à faire pour les autres. Et qui répandent la miséricorde qu'ils ont reçue aux autres. Les miséricordieux, ce sont ceux qui, touchés par la grâce de Dieu, ont compris que Dieu leur demande maintenant de servir les autres. Jusque-là, peut-être, ils se sont servis eux-mêmes, mais Jésus les invite à un nouveau programme, servir les autres, être miséricordieux pour les autres. Et cette miséricorde leur garantit de recevoir eux aussi la miséricorde des autres et la miséricorde de Dieu. Ils obtiendront miséricorde eux aussi parce qu'ils sont pécheurs, ils sont faillibles, ils font des erreurs, tout plein. Mais c'est beaucoup moins grave quand on a quelqu'un de humble qui sert et qui fait des erreurs que quand on a un propre juste devant soi et qui prétend ne jamais se tromper. La malédiction correspondante se trouve dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 23. Matthieu chapitre 23, verset 23, Jésus dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans oublier les autres choses. » Il parle justement là de cette miséricorde qu'ils ont complètement oubliée. Ils ont considéré que leur fidélité leur servait à eux. Mais la miséricorde pour les autres, ils l'ont oubliée. Ça ne fait pas partie de leur loi à eux. Leur loi, c'est être fidèle dans tout ce qu'on leur demande pour accumuler des bons points pour le royaume des cieux. Là encore, Jésus leur reproche d'avoir laissé de côté la miséricorde. La sixième béatitude qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 dit ceci au verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Cette sixième étape est la suite logique de l'autre. Quel est donc le meilleur moyen de purifier notre cœur, si ce n'est que de nous mettre au service de Dieu pour accomplir son œuvre? Ceux qui ont ce cœur pur, ce sont ceux qui se sont purifiés dans le service parce qu'ils se sont rendus compte qu'autour d'eux, le besoin est immense et que Dieu y pourvoit par leurs moyens. Ils se rendent compte que cette parole des Écritures s'applique à eux. Regardez par exemple dans le psaume 24. Au début du psaume 24, dans les versets 3 et 4, il est dit ceci. Psaume 24, versets 3 et 4. et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Voilà la réponse. Et vous vous souvenez, cette béatitude disait « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». C'est exactement ce que le psaume dit. Ceux qui pourront monter à la montagne de l'Éternel, se présenter dans son saint lieu, c'est qui? Ceux qui auront les mains innocentes et le cœur pur. Ils comprennent que cette parole s'applique à eux et qu'ils verront Dieu. Combien d'entre nous souhaiteraient rencontrer le Seigneur Jésus, marcher avec lui comme les disciples l'ont fait? Jésus a fait la promesse qu'il reviendrait pour tous ceux qu'il aime d'un cœur pur. La malédiction qui va avec se trouve dans Matthieu chapitre 23 au verset 25. Matthieu chapitre 23, verset 25. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Le cœur pur, c'est un travail qui se fait par l'intérieur. Alors que l'on est engagé au service, le Seigneur fait ce travail parce que c'est lui seul qui en a la clé. Mais malédiction à ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir le faire par eux-mêmes. Malédiction à ceux qui, comme le dit Jésus, vont prétendre être purs en nettoyant le dehors seulement, l'extérieur, le visible, l'apparence. C'est à eux que Jésus adresse cette malédiction. Parce que ce n'est pas le cœur qui est pur, c'est seulement le dehors, c'est-à-dire simplement pour paraître aux yeux des autres. Ce que le Seigneur voulait, c'est l'intérieur transformé et purifié. Malheur à ceux qui prétendent être purs simplement pour l'extérieur, pour la galerie, pour l'église, pour ceux qui les entourent, pour leur réputation. La septième béatitude dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, au verset 9, dit ceci. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » C'est ce que les contemporains de Jésus pensaient être tous. Et Jésus sous-entend là que ne sont véritablement fils de Dieu que ceux qui procurent la paix. Ceux qui ont le cœur pur, dont on parlait à un instant, par leur service, deviennent des ambassadeurs. Ambassadeurs de quoi? Alors la parole de Dieu nous le dit dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5. L'apôtre va nous dire quelle sorte d'ambassadeur nous sommes appelés à être. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 20, il est écrit ceci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ambassadeur de quoi? Ambassadeur de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Ambassadeur de paix. Et c'est ce que Jésus est, le prince de la paix. C'est pour ça qu'ils seront appelés fils de Dieu. Ceux qui servent sont en réalité des ambassadeurs de cette réconciliation dont Jésus est la clé. Mais dans Matthieu 23, au verset 27, il est écrit, Matthieu chapitre 23, verset 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui apparaissent beaux dehors et qui dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Ils ne sont pas ambassadeurs de la justice et de la paix. C'est l'hypocrisie, c'est la tromperie, c'est la politique, c'est travailler pour soi. Ce n'est pas la paix, c'est marcher sur la tête des autres pour s'en sortir. C'est une apparence. Ce n'est pas une réalité. Malheur à ceux qui ne le sont pas, qui ne sont pas des disciples en réalité à l'intérieur d'eux-mêmes. La huitième béatitude dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 est une béatitude avec laquelle nous avons plus de mal. Parce que Jésus dit au verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » On peut facilement se dire que nous sommes les miséricordieux, que nous sommes les cœurs purs, que nous sommes ceux qui procurent la paix, mais quant à devenir des martyrs, c'est une autre histoire. Et Jésus dit, heureux ces gens-là, heureux les martyrs, heureux ceux qui sont persécutés. Mais c'est un peu plus difficile pour nous, parce que nous avons du mal à voir dans les persécutions et dans les difficultés que nous rencontrons la source du bonheur dont Jésus parle. Cependant, Jésus est en train de dire, si ça va mal, c'est bon signe. Si ça va trop bien, il faudrait peut-être que vous vous inquiétiez de savoir ce qui se passe pour que vous soyez en si bon terme avec l'ennemi. Jésus leur rappelle en fait cette idée que l'apôtre Paul va exprimer bien plus tard en disant « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Autrement dit, si ça va mal, c'est bon signe. C'est qu'on devient une menace pour l'ennemi. Et c'est exactement ce que veulent être les disciples de Jésus. Mais si les disciples de Jésus ne sont une menace pour personne, même pas pour l'ennemi, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à s'inquiéter de savoir s'ils sont encore des disciples du Christ. Heureux alors, dit Jésus, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Mais je n'ai pas envie d'être un martyr, mais il y a dans le texte quelque chose d'extraordinaire, que nous n'avons pas vu en passant, mais que j'aimerais souligner maintenant. La première béatitude dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Si vous lisez les autres béatitudes, elles sont toutes au futur. « Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux les débonnaires, ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Mais regardez ce que dit maintenant la dernière béatitude, la huitième. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Les pauvres en esprit, dont il était question dans la première béatitude, ceux qui se reconnaissent démunis en besoin de la grâce de Dieu, le royaume des cieux est à eux maintenant. Oh, la vie ne sera pas rose, la vie du chrétien n'est jamais rose. Ils devront traverser des difficultés. Et le Seigneur leur promet qu'un jour, il va résoudre toutes ces difficultés-là à sa manière. Mais si par hasard, le long du chemin, ceux qui se reconnaissent tributaires de la grâce de Dieu sont en butte aux difficultés de la vie et persécutés d'une manière ou d'une autre. Jésus leur rappelle que sa promesse est pour eux maintenant. De la même manière qu'en reconnaissant votre besoin, vous avez l'assurance que le royaume des cieux est à vous maintenant, de la même manière Jésus est en train de dire, lorsque vous rencontrez les difficultés de la vie, sachez que le royaume des cieux est à vous déjà maintenant. Les difficultés, les problèmes, ils seront résolus à la manière de Dieu, en son temps. Mais le royaume des cieux est à vous, maintenant. Ces promesses sont pour ceux qui veulent s'aventurer avec Jésus dans cette expérience de la foi et qui les amènent d'une étape à l'autre dans leur marche avec le Christ. Pas pour ceux qui commencent et qui se retirent, et qui sont assis entre deux chaises, essayant de bénéficier des avantages des deux côtés. Ils sont pour ceux qui s'engagent avec le Christ entièrement, pour ceux qui partent avec lui dans cette démarche de foi, sachant qu'au bout du compte, le Seigneur leur dira aussi, « Le royaume des cieux est à vous. » Amen.